de la théologie, une année c'est Dieu, une année c'est le Christ, une année c'est l'Église et les sacrements, une année c'est l'homme. Et bien, nous sommes arrivés à cette année-là, et pour étudier l'homme, eh bien, on va partir de la morale. Et pas de la morale particulière, je veux dire, on pourrait dire la morale familiale, la morale sociale, d'autant plus que maintenant il y a un atelier de doctrine sociale de l'Église, mais là on va prendre vraiment les fondements, la base, hein, c'est-à-dire sur quoi se fonde l'enseignement moral de l'Église, qui est une question très importante, parce que vous voyez bien que de quel droit le pape parle-t-il, de quel droit l'Église dit-elle ceci ou cela, est-ce qu'elle a des titres à le dire? Donc la question, c'est l'origine, enfin le statut de la réflexion morale. Alors, j'aurais dû vous apporter le plan des cours que j'envisage, mais en principe, il a paru sur une forme du programme. Mais en gros, enfin je vais vous dire en très gros, on va commencer aujourd'hui par le côté, disons, vertical de la morale, c'est-à-dire Dieu qui révèle ses intentions, ça sera le premier point. Ensuite, on verra quel est le partenaire auquel il s'adresse, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons pour correspondre à cette loi morale, une liberté, une responsabilité, enfin, toutes ces choses qui sont de notre côté. Hein. Et puis, dans un troisième, on verra comment la loi divine, ah oui, vous n'avez pas eu de cours encore, comment la loi divine tient compte, enfin, intègre une partie de la sagesse humaine qui a réfléchi sur le bien et le mal, enfin, comment se situe la révélation, les commandements divins par rapport à la réflexion humaine sur le bien et le mal. Donc, c'est toute la question de la sagesse. Voilà. Et ça sera pour le premier trimestre. Hein. Sur le deuxième trimestre, on dira d'autres choses. Ça va ? Mais enfin, j'aurais dû vous apporter le schéma. Pardon, excusez-moi. Bon, alors, donc aujourd'hui, de façon un peu brutale, enfin, je voudrais développer cette idée. Donc, Dieu a parlé. Au départ de la morale chrétienne, il y a une initiative de Dieu, une initiative étonnante. Je vais vous montrer que dans les pensées antiques, par exemple, eh bien, curieusement, la morale n'avait pas de rapport avec Dieu. La morale était laïque. On pourrait penser l'inverse, mais vous allez voir, je crois que c'est assez clair, que c'est la Bible qui a amené les hommes à penser que Dieu s'intéressait à leur conduite, qui n'était pas seulement dominé depuis son ciel, mais qu'il s'intéressait à cette conduite. En gros, la Bible part de l'idée que Dieu, ayant tout créé, connaît le mode d'emploi de sa créature et qu'il la lui révèle et il l'aide à aller dans ce sens-là. Alors, dans une première partie, je fais un peu un état des lieux sur les morales non chrétiennes, principalement celles qui sont autour du peuple d'Israël, mais enfin plus largement des morales, disons, humaines, simplement, qui se présentent. Alors, en gros, dans les religions antiques, en général, qu'elles soient égyptiennes, mésopotamiennes, ou même grecques et romaines, finalement, les dieux n'ont pas grand-chose à voir avec la conduite morale des hommes. D'abord, parce qu'ils ne composent pas un ensemble unifié. Vous savez, il y a un panthéon avec plusieurs dieux, et généralement, ils sont pas d'accord entre eux. Enfin, ça se chamaille, ils n'ont pas une politique commune. Donc, il n'y a pas une volonté divine, il y en a plusieurs. Par exemple, dans l'Iliade, on voit que, eh bien, il y a des dieux qui prennent parti pour Troie, et des dieux qui prennent parti pour les Achéens. Alors, ça fait des problèmes entre eux, etc. Donc, il n'y a pas une volonté divine qui, en quelque sorte, superviserait l'ensemble de la vie des hommes. Les seules exigences qu'ont les dieux, généralement, sont très intéressées. C'est-à-dire les sacrifices qu'on leur fait, les offrandes qu'on leur fait. Alors là, c'est très important. Vous savez, Chez les Grecs, il y a les fameuses histoires des hommes qui font la grève des sacrifices. Alors les dieux sont réduits à la famine, ils sont obligés de dresser le drapeau blanc pour obtenir. Voilà. Donc il y a une idée d'un échange très matériel entre les hommes et Dieu. Donc les dieux sont intéressés, et ils sont intéressés non pas par le comportement de l'homme, mais parce qu'ils reçoivent. Ou négativement, ils sont concernés aussi par les nuisances que l'humanité risque de rapporter. Il y a un mythe mésopotamien qui est très amusant, qui raconte que quand les hommes ont commencé à se multiplier, ils ont fait de plus en plus de boucans. Et les dieux ne pouvaient plus dormir. Donc ça, ils ont souhaité faire une coupe, c'est l'origine du déluge, ils ont souhaité faire une coupe sombre dans l'humanité en disant « ça suffit quand même, comme ça ». Enfin, vous voyez, les rapports sont de ce type. Il n'y a pas de place, évidemment, pour un dieu sage et bon qui viendrait dire aux hommes « voilà, c'est ça qui est votre bien, il faut essayer de le faire ». Par contre, la réflexion morale est le fait, comme je dis là, des sages. Alors les sages, ce n'est pas seulement des enfants sages, les sages, c'est un milieu. Dans l'Antiquité, on appelle comme ça souvent le milieu des scribes, c'est-à-dire des gens qui ont une maîtrise de l'écriture, qui leur donne aussi une culture, Et généralement, ces scribes sont employés au service du pouvoir et souvent dans des États qui sont centralisés, qui ont une administration, comme l'Égypte. L'Égypte est un pays extraordinairement paperassier. À partir du moment où l'écriture a été inventée, on voit qu'on remplit des États, on a eu toute une comptabilité. Oui, n'hésitez pas à rentrer. Vous voyez, il y a encore des places. Il y a même une place à côté de moi. C'est pas très facile. Si vous avez le courage, venez. Je vous promets, je ne frappe pas. J'essaie de ne pas postillonner.
Ferme-moi. Mais... Ah, s'il te plaît.
Merci beaucoup.
Ouais. Ouais. Donc, le milieu des... Je vais vous donner un peu de copie. Le milieu des sages, ou des scribes, en gros, c'est la même chose, sont des gens qui ont un accès à la culture, et là fleurissent des écrits qu'on appelle généralement d'ailleurs des sagesses, prennent souvent la forme de l'enseignement d'un père à son fils, hein, ou d'un roi à son successeur. Alors, on a par exemple, début du... dans l'Ancien Empire, l'enseignement de Méry Carré, le roi Méry Carré qui s'adresse à son fils, dit, tu vois, tu vas être roi à ma place, eh bien, il faut que tu fasses attention à ceci, cela. Donc, c'est le fruit de l'expérience, et ces morales ne sont pas religieuses. C'est-à-dire que la divinité n'y intervient pas. Bien sûr, on dit accessoirement qu'il faut faire des offrandes aux dieux, parce que c'est comme ça qu'on sera tranquille, mais il n'y a pas du tout l'idée que derrière les commandements, enfin, ça ne s'appelle pas des commandements d'ailleurs, derrière les réflexions des sages, il y aurait une volonté divine bonne qu'il faudrait suivre. Et c'est absolument pas le cas. C'est l'expérience qui dicte, voilà, il faut travailler, le travail c'est la santé, devant un supérieur il ne faut pas faire le malin, il faut plier, parce que sinon ça se termine toujours mal, il faut, alors donc il y a une certaine habileté, un certain savoir-faire, on peut qualifier de ruse parfois, mais enfin, souvent ça va avec, le père a des réflexions assez élevées, où on dit, voilà, il faut être maître de soi, il faut avoir une certaine... Sinon, il vous arrive beaucoup de choses malheureuses. Il y a dans des sagesses des choses assez inattendues comme le respect des pauvres. Une phrase d'une sagesse égyptienne qui dit qu'il y a peut-être autant d'intelligence dans une femme qui est en train de travailler à la meule, c'est-à-dire c'était vraiment le travail de base, que chez, je sais pas quoi, le vizir ou le souverain, on a conscience que l'intelligence, elle est partout, elle est dans toutes les couches de la société, que c'est pas seulement l'apanage de certains. Donc, les bienfaits de l'amitié, enfin, il y a d'assez belles choses. Si vous tapez un jour sur Internet, par exemple, la sagesse de Ptahotep, P-T-A-H, encore un H, O-T-E-P, eh bien, vous trouverez sans doute des belles choses. Alors, je voudrais revenir un moment sur le thème du jugement des morts. Car, curieusement, dans les sagesses égyptiennes, moins dans certaines, on voit la perspective que quand même les hommes seront jugés. Leur vie, à la fin de leur existence, sera confrontée à leur acquis. Pas vraiment à un dieu, à une espèce de principe de justice immanente qui, devant lequel l'homme comparaîtra et dans lequel sa vie sera pesée, sera évaluée. C'est souvent comparé à une pesée. Donc une idée quand même très, très forte qui suppose que la vie morale a quand même une dimension d'éternité, qu'il n'y a pas que sur Terre que c'est important, que pas seulement de profiter au maximum de la vie terrestre, qu'il y a quelque chose après. Enfin, c'est, pour les Égyptiens, c'est une évidence qu'il y a quelque chose après. Ils ont toujours eu un culte des morts extrêmement développé. Donc, mais l'idée qu'il y aura un jugement qui porte généralement sur des questions qui sont quand même des questions morales. Le meurtre, je ne sais pas s'il y a d'adultère, mais en tout cas, il y a tout un certain nombre de choses qui concernent la vie morale. Malheureusement, très tôt, ce thème du jugement des morts va être piraté par la magie. C'est-à-dire qu'on voit apparaître dans certains textes, comme le livre des morts, l'idée que, ben justement, comme on veut à tout prix avoir une bonne éternité, une éternité où on sera heureux, ben on va faire en sorte que même si le jugement risquait d'être défavorable, on force la porte quand même. Et alors, pour y arriver, on va truquer le jugement. On va d'abord le cœur, on va l'ensorceler pour qu'il ne révèle pas ce qu'il a fait de pas bien. Hein, comme ça, il ne sera pas dénoncé devant le juge. Le cœur dira « Oui, j'ai toujours tout bien fait dans ma vie, c'était parfait, etc. » Donc on l'ensorcelle pour qu'il ne dise pas la vérité. Et puis on prend même la place du juge qu'on va réduire à l'impuissance pour qu'on soit toujours justifié. Donc vous voyez, c'est émouvant d'une certaine manière de voir que cette réalité, qui était peut-être une des plus hautes que la pensée des sages a pu avoir, ben, finalement a été... piraté, c'est le cas de le dire, par une vision magique qui le fausse complètement, qui enlève tout intérêt d'ailleurs à ce thème, parce qu'à partir du moment où c'est simplement une épreuve à vaincre, un obstacle à franchir, il n'y a plus du tout l'idée que notre vie devrait avoir une certaine qualité pour passer dans l'éternité. Alors, je fais une tout petite excursus par la pensée grecque, qui est postérieure, évidemment. Tout ce que je vous raconte, c'est des choses qui sont du 3e ou du 2e millénaire, tandis que la Grèce est beaucoup plus proche de nous. Mais, évidemment, on ne peut pas parler de la morale avant la Bible sans parler de Socrate, par exemple. La grandeur de Socrate, c'est dans son refus des sophistes, de manifester qu'au fond, le bien ne se confond pas avec l'utile, qu'il ne suffit pas que ça réussisse, que ça marche, pour que ça soit bon, qu'il y a une dignité de l'homme, une dignité de ce qu'il fait, qui doit l'amener à chercher le bien, même s'il n'est pas rentable. Et de Socrate, cette formule qu'il vaut mieux subir le mal que de le commettre. Il va donner l'exemple, d'ailleurs, vous savez, en acceptant de mourir injustement, on l'a condamné injustement d'avoir corrompu la jeunesse, donc on l'a condamné à boire la ciguë, et alors des amis bien intentionnés lui proposent de s'enfuir pour échapper à ce châtiment, et c'est la fameuse prosopopée des lois, où il dit, mais si les lois d'Athènes venaient me dire, qu'est-ce qu'on t'a fait, pourquoi on t'a élevé, on a permis que tu aies bonne éducation, que tu puisses te marier, que tu puisses avoir des enfants, que tu puisses enseigner à tes disciples. Et voilà que maintenant, parce qu'on te fait des ennuis, tu voudrais nous nuire. Eh bien, dans dit Socrate, je boirai la ciguë, je ne commettrai pas le mal, même si je suis victime d'un mal. Donc ça, c'est une vision de la morale déjà extrêmement élevée, mais qui n'est pas directement religieuse. Alors je sais bien que chez Socrate, il y a l'idée qu'il a un daimon, je ne veux pas dire démon au sens que nous donnons à ce mot aujourd'hui, mais après, une espèce d'esprit divin qui l'habite, qui l'inspire, qui lui donne cette hauteur de vue, cette petite ouverture religieuse. Mais au fond, la justification part avant tout de l'homme et de sa dignité. La grandeur de l'homme, c'est de pouvoir donner un but à sa vie, un but, se proposer la justice, le bien, etc. Et au fond, on trouvera un peu la même chose chez Aristote et les stoïciens, qui ont aussi, alors je ne vais pas rentrer, hein, ça serait tout un cours qui serait intéressant, mais je ne vais pas rentrer dans la morale d'Aristote ni celle des stoïciens, mais dans l'un comme l'autre cas, au fond, on part non pas de la volonté divine, mais finalement d'une certaine idée de l'homme. Et pour finir, un coup de chapeau à Confucius au passage, allons plus loin encore de l'Orient, enfin du Moyen-Orient, hein, Confucius qui écrit enfin, des choses très, très dignes, une morale qui est avant tout une morale de la vie sociale, hein, l'homme est d'abord pris dans un réseau de relations, donc il faut qu'il accomplisse ses devoirs, qu'il fasse tout ce qu'il faut pour sa famille, pour son pays, etc. Et même, il y a chez Confucius, comme chez d'ailleurs d'autres penseurs de l'Antiquité, ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire le principe de réciprocité, hein, en gros, ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, hein, qui est très différent de ce que Jésus dira, qui est positif, qui dit fais à autrui ce que tu voudrais qu'on fasse, et ce qui est très différent, comme je vous l'expliquerai plus tard. Donc voilà. Alors, ce qui arrive, eh bien, c'est un événement, c'est-à-dire qu'une fois dans l'humanité, il y a eu comme une espèce de coupure, et que à partir de ce que j'appelle l'événement du Sinaï, normalement doit se situer vers les années 1250 avant notre ère, eh bien, un certain Moïse reçoit deux révélations de Dieu. La première, au buisson ardent, dans lequel il a la perception de ce Dieu unique et transcendant qui lui révèle son nom, je suis celui qui suis, et tout ce que vous savez, mais qui lui révèle en même temps, et c'est très intéressant, qu'il est ce Dieu qui a entendu le gémissement de son peuple, qui est esclave en Égypte, et qui veut intervenir. Donc ce Dieu tout à fait transcendant, qui est au-delà du ciel et de la terre, eh bien, il est en même temps le Dieu qui écoute, qui est sensible à la détresse humaine et qui s'est lié particulièrement avec la famille d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc tout le paradoxe de la religion biblique est là. Dieu n'est pas le Dieu des sources ni des collines, il n'est pas le Dieu d'une ville ou d'un territoire, il est le Dieu du ciel. Mais en même temps, il a la capacité, en quelque sorte, de se pencher sur la misère humaine, et particulièrement de ceux qu'il a choisis. Donc il y a là les deux traits qui caractérisent le Dieu biblique, hein, il est transcendant, mais ce n'est pas un principe métaphysique, c'est un être qui aime, qui s'est penché sur son peuple et qui veut lui venir en aide. Alors ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, eh bien, c'est quand Moïse a amené le peuple, est allé chercher les plaies d'Égypte, enfin la traversée de la mer Rouge, vous savez tout ça, et que est conclue au pied de la montagne l'alliance qui nous est racontée dans chapitres 19 et 24, qui servent de, en quelque sorte, de cadre à un bloc de chapitres 20, 21, 22, 23, qui contiennent des lois beaucoup plus précises. Mais l'entourage, c'est-à-dire 19 et 24, nous donne les conclusions de la manière dont est conclue l'alliance, qui repose sur une charte, c'est-à-dire sur un document écrit, qui matérialise l'alliance qui est passée entre Dieu et ce peuple. Et le décalogue, évidemment, est au cœur de cette affaire-là. Donc, ce qu'on comprend là, c'est que, d'abord, le Dieu qui peut faire ça, c'est un Dieu qui est fondamentalement désintéressé. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme les dieux païens qui ont besoin des hommes pour se nourrir ou pour n'importe quoi, ou qui sont gênés par le boucan que font les hommes. S'il se penche sur l'homme, c'est par pure bonté, c'est par pure générosité. Comme il le dit dans un psaume, « Si j'avais faim, irais-je te le dire ?» Les animaux des forêts sont à moi. Si j'avais faim, je me servirais, je n'ai pas besoin de vous. Hein. Puis en fait, je n'ai même pas besoin de me nourrir. Alors ça simplifie le problème. Donc Dieu est désintéressé. Il y a dans sa démarche rien qu'on puisse soupçonner comme une jalousie, une volonté de puissance, un désir de s'imposer, etc. Il est tellement grand qu'il n'a pas besoin de tout ça, mais par amour, l'amour qu'il porte à Abraham et à sa descendance, eh bien, il s'intéresse à ce petit ramassis de fuyards qui ont quitté Canaan pour s'installer en Égypte et qui sont bien malheureux. Donc ça, et s'il édicte des préceptes, c'est dans cet esprit-là. C'est pas pour mettre en esclavage d'une autre façon les hommes, c'est pas pour les faire passer dans ses vues pour exalter sa puissance, c'est parce qu'il s'intéresse à nous, parce qu'il s'intéresse aux autres. Donc ces exigences sont bienfaisantes, sont bénéfiques. Elle donne la vie, hein, dans Deutéronome 30-19, choisis la vie. Choisir la loi de Dieu, c'est choisir la vie. Et cette loi, eh bien, elle est sérieuse, grave, et si on la néglige, ça va être terrible, ça va être la mort. Mais d'un autre côté, si on la suit, eh bien, Dieu va s'engager avec ce peuple sur la durée. Et il garde son amour pour 1000 générations, c'est quand même pas mal. Hein. Donc il y a une fidélité de Dieu à son alliance qui est beaucoup plus forte que les châtiments qu'il inflige et qui sont peut-être terribles, mais qui ne durent pas. Donc s'il y a une perspective dans le livre de l'Exode, parce que si vous avez lu un jour le livre de l'Exode, vous avez vu que il commence évidemment par l'histoire de Moïse, sauver des eaux, etc. Et puis ensuite le Sinaï, le peuple qui quitte l'Égypte, qui va au Sinaï. Mais ça se termine par des lois sur le culte. Alors on pourrait dire, ben voilà, on est revenu comme dans les religions païennes, Dieu a besoin qu'on lui rende un culte. Non, c'est pas ça. Le culte, c'est une condescendance de Dieu qui sait que nous avons besoin de lui manifester quelque chose, et que nous sommes grandis par ce culte. Donc c'est pas au profit de Dieu ce culte, c'est notre profit finalement. En rendant gloire à Dieu, nous accomplissons notre humanité dans ce qu'elle a de plus beau. Si bien que certains ont dit à juste titre que le livre de l'Exode, si on voulait trouver un fil conducteur du livre de l'Exode, on dirait qu'on va de l'esclavage au culte. On va de la servitude d'Égypte sous les ordres de Pharaon jusqu'à la liberté dans le service de Dieu. On va de l'esclavage au service. Alors, évidemment, si vous êtes un peu féru d'histoire, si vous avez lu des livres, des articles de revue, vous êtes peut-être un peu sceptique sur l'événement du Sinaï, parce que vous avez peut-être entendu dire que aujourd'hui, dans le milieu des spécialistes, on met en cause le séjour des Hébreux en Égypte, puis même beaucoup d'autres choses, puisque même David n'est plus qu'un petit chef de clan qui n'a eu aucune importance vraiment dans l'histoire. Enfin, tout ça, c'est les travaux de Finkelstein qui a été un... il y a quelques années, et à Paris en ce moment, au Collège de France, enseigne le professeur Römer, qui est tout à fait dans cet esprit-là. Donc, alors, c'est vrai, ça se dit, et plus ennuyeux encore, on nous explique qu'au fond, la religion des Hébreux, c'est pas été d'un coup comme ça, Dieu qui se révèle, qui donne sa loi, qu'en fait, c'est un très long processus de mûrissement qui a fait qu'on est parti d'un certain polythéisme dont on voit encore des traces dans la Bible par moments, qui a été compatible avec ce qu'on appelle une monolâtrie, c'est-à-dire, on dit il y a plusieurs dieux, mais il n'y en a qu'un seul qui sera notre Dieu, hein, pour arriver évidemment tout à fait au bout à monothéisme proprement dit, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, les autres c'est des faux dieux, etc. Donc ça serait que progressivement qu'on serait arrivé à ça, et encore dans certains milieux, pas dans tous, puisque On a trouvé, peut-être vous le savez, en Égypte, les fentilles d'une communauté, les traces d'une communauté juive d'époque perse, c'est-à-dire vers le 5e siècle, dans lequel, au stupeur, il y a un temple de Yahweh, Yahvé, mais à côté, il y a le temple de la déesse Perèdre, Yahwat. Comme pour les dieux païens, il y a monsieur et madame. Enfin, donc, ça prouve effectivement que la religion d'Israël est peut-être pas aussi. Ça n'a peut-être pas été aussi net que ça, qu'il y a eu un monothéisme qui s'est imposé à un moment. Et que, d'un autre côté, cette question historique, je ne suis pas là pour la résoudre. Personnellement, je ne pense pas que les travaux de Römer soient définitifs, que beaucoup de choses sont contestables. Et surtout, il y a une réflexion de bon sens qui est de dire, si au fond tout ça n'est qu'un lent processus de mûrissement, on ne comprend pas l'émergence du judaïsme. Le propre du judaïsme, c'est quand même une expérience très originale au plan de l'histoire, qui n'est pas une civilisation comme une autre qui aurait existé, puis qui serait développée, qui aurait mûri, qui aurait évolué. On est face à une réalité constamment évolutive, où on part de presque rien, ça prend la forme d'un État, ensuite c'est un peuple qui est en esclavage à Babylone, c'est ensuite une religion perdue au milieu des autres religions. Enfin, c'est cette espèce de dynamisme qui porte le judaïsme depuis ses origines. S'il n'y a pas eu au départ un événement sensationnel qui était la source, j'avais un professeur dont je travaillais à ces questions qui disait, s'il n'y avait rien eu au Sinaï, le vrai miracle, ça serait pas la traversée de la mer Rouge, ça serait l'existence du judaïsme lui-même. Bon, enfin, en tout cas, je ne vais pas traiter cette question, mais je ne pense pas que les travaux de Finkelstein et autres soient si décisifs que ça. Mais, quelle que soit la façon dont on se représente l'émergence de la révélation biblique, il y a eu un moment où elle a existé. Et en tant que telle, elle tranche avec tout le reste, avec tout ce qu'il y a eu autour. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le discuter. Alors, regardons-y de plus près. D'abord, qu'est-ce que nous trouvons ? Nous trouvons le fameux décalogue, ce qu'on appelle le décalogue moral, pour le distinguer d'un autre, dont je vous parlerai après. Ces 10 paroles dont il est question plusieurs fois. Alors, vous savez sans doute qu'il est présent de deux façons dans la Bible, dans l'Exode et dans le Deutéronome, avec des différences, mais qui ne sont pas très grandes, enfin quand même, qui sont intéressantes, méritent, enfin ça a une chose à faire un jour, c'est de vous faire en deux colonnes les 10 commandements, et puis de voir. D'ailleurs, leur découpage n'est pas évident. Vous savez peut-être que depuis saint Augustin, nous comptons 1. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. 2. Tu ne lui feras pas d'image taillée. 3. Tu lui consacreras un jour dans ta semaine. Et 4. Tu respecteras tes parents. Mais on peut aussi couper autrement et dire 1. Un seul Dieu. 2. Ne pas jurer en vain le nom de Dieu. Ne pas représenter d'idole. Et puis Shabbat. Donc le 4e commandement serait dans ce cas-là le Shabbat. Bon. Mais à la fin, ça veut dire aussi qu'il y a le 9e et le 10e de notre liste n'en ferait qu'un pour attraper le chiffre 10. Bon, c'est pas très important, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est en tout cas frappant... Alors oui, on dit souvent, et c'est vrai, que dans le décalogue, il y a deux tables. Il y a la partie qui concerne strictement Dieu, et puis la partie qui concerne encore Dieu, mais à travers le prochain. C'est-à-dire les commandements 4 à 10. Alors, la grandeur du décalogue, qui est quand même un document étonnant, qui tranche énormément avec ce qu'on lit dans les choses de cette époque-là, c'est ce caractère d'absolu. C'est-à-dire, c'est tu ne tueras pas. Voilà. Il y a quelque chose qui s'impose absolument au nom de Dieu et qui ne souffre ni exception ni contradiction. Tu n'auras pas, d'ailleurs, voulant dire très précisément, tu ne commettras pas de meurtre. Pas dire qu'à la guerre, on ne peut pas être obligé de quelquefois être tué, mais ce n'est pas un meurtre, on est face à une agression auquel on répond. Mais tu ne commettras pas de meurtre. Mais en tout cas, c'est absolu. Tu n'as pas droit sur la vie de ton prochain innocent. C'est clair. Et de même, tu ne commettras pas d'adultère, de même tu ne voleras pas, etc. Alors, il y a deux commandements qui ne sont pas négatifs, qui sont le commandement du sabbat et tu honoreras ton père et ta mère. Ces deux commandements sont des commandements positifs et curieusement, c'est les deux qui ont aussi une justification. Le commandement du sabbat est justifié de deux manières, selon qu'on est dans l'Exode en Deutéronome. Toi, par le fait que Dieu ait chômé en quelque sorte le septième jour de la création, soit le rappel du séjour en Égypte, vous étiez des esclaves, vous étiez bien content d'avoir un jour de congé de temps en temps, et bien voilà. Et quand tes père et mère honorera, vous le savez, c'est pas tellement une justification, d'ailleurs c'est plutôt une promesse, afin d'avoir longue vie sur la terre que Dieu te donne. Si tu sais reconnaître ce que tu as reçu de tes parents, eh bien tu auras aussi la possibilité à ton tour d'avoir une fécondité et une durée. Mais les autres commandements sont sans justification, sans explication, c'est comme ça. Alors, on dit souvent qu'il y a un autre décalogue, et lui qu'on appelle souvent cultuel, qui se trouve en Exode 34, 14, 28. Vous regardez si ça vous intéresse. Alors, il commence comme l'autre d'ailleurs, interdiction de l'idolâtrie, et il comporte aussi le commandement du sabbat. Mais alors il y a les fêtes, des temps de fêtes de Pâques, etc. Donc il y a rappel des fêtes principales et puis quelques commandements relatifs au culte, comme ce fameux et mystérieux commandement qu'on ne fera pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Qui nous paraît ça peut être touchant, enfin, d'une certaine manière, mais ça reste mystérieux. Je vous dirai comment peut-être on peut essayer de le comprendre tout à l'heure. Donc, on peut penser que le décalogue, enfin, le décalogue moral, culturel aussi d'ailleurs, mais a été un résumé de la loi qui était demandé, qu'on faisait réciter à ceux qui se présentaient au sanctuaire pour adorer Dieu. Et que les prêtres, parce que d'après Jérémie, la Torah, la loi, c'est le domaine des prêtres, donc il disait récite les commandements, dis-les. Donc c'était une sorte de. Un peu comme en Égypte, on a des traces de ça. Avant de rentrer dans le sanctuaire, on demandait des conditions. On disait est-ce que tu as lavé tes vêtements, est-ce que je sais pas quoi, est-ce que t'as pas trop bu. Il y avait des conditions qui étaient. De fixer, le prêtre était à l'entrée en train de dire ouais, est-ce que la robe est assez longue ou je sais pas quoi. Il y avait une espèce de vérification avant l'entrée dans le sanctuaire et ça pourrait être l'origine des 10 paroles dans le sanctuaire de Silo. Parce que bon, on sait que le sanctuaire de Silo était desservi par la lignée sacerdotale issue de Moïse, donc ça serait transmis de Moïse. C'est une hypothèse. Ça ne change pas au contenu. Mais la loi dictée à Israël ne se limite pas au décalogue. Et bien évidemment, si vous avez essayé de commencer à lire la Bible au-delà de la Genèse, eh bien vous êtes heurté à des blocs législatifs extrêmement compacts et parfois, il faut dire, un peu indigestes. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont perdus dans la lecture de la Bible quelque part dans les rivages du Lévitique. Alors, pour essayer d'abord de mettre de l'ordre, on classe trois grands ensembles. Il y a d'abord ce qui est au cœur de la conclusion de l'Alliance dont vous parlez tout à l'heure, en Exode 19-24, vous avez quatre chapitres qui sont un peu le résumé le code de l'Alliance. Donc de 19 à 23, vous avez quelque chose qui vous donne les lois les plus importantes. Alors, on disait jadis, je fais une petite parenthèse, parce que pendant un certain temps, pour comprendre les premiers livres de la Bible, le Pentateuque, on partait du principe qu'il y avait quatre sources qui étaient liées avec des époques différentes, des régions différentes aussi, et on avait réussi, par ce principe-là, apparemment, à expliquer beaucoup de choses. Malheureusement, tout ça s'est un peu effondré il y a quelques années parce qu'on a découvert des choses qui ne semblaient pas cadrer avec ça, si bien qu'aujourd'hui on est beaucoup moins affirmatif. Moi, quand j'ai fait mes études, c'était simple. Il y avait la partie yaviste, la partie éloïste, la partie deutéronomiste, la partie sacerdotale. Même avec les crayons de couleur, on nous apprenait à souligner les parties qui étaient l'une ou l'autre source. Aujourd'hui, c'est très, très mis en cause. Même si probablement il y avait un peu de vrai, parce que c'est quand même des faits. Dans la présentation ancienne, en tout cas, je ne peux plus vous l'enseigner comme étant sûre et certaine. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, on disait que la Côte de l'Alliance, c'était une loi sacerdotale. Alors, il y a aussi dans le Lévitique un bloc au centre qu'on appelle la loi de sainteté, qui a une certaine cohérence et qui est le foyer du livre du Lévitique. On a l'impression que le livre du Lévitique s'est construit autour de ça. Et puis enfin, dans le Deutéronome, vous avez le code deutéronomique qui est plutôt vers la fin et qui sert là aussi de point de cohésion à d'autres lois qui sont tout autour. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer entre ces différents groupes les fêtes, de voir comment ces différentes sources, par exemple, présentent la Pâque, présentent la fête des tentes, etc. On voit que dans un cas, on est dans un contexte qui peut être encore à partie nomade, dans l'autre, c'est déjà agricole, d'autres, etc., c'est plus urbain. Enfin, on voit qu'il y a des différences qui traduisent des époques, probablement, même si on est moins affirmatif sur les époques en question. Alors, que faire de cette législation-là ? Que faire de tous ces textes qui, il faut dire, nous sont assez rébarbatifs, dans lesquels sont accumulées des prescriptions parfois très minutieuses sur la pureté, sur le culte, sur l'énoncé des crimes et des châtiments, etc. Alors, aujourd'hui, pour le judaïsme, tout ce qui est dans la Torah, tout ce qui est dans les cinq premiers livres, c'est-à-dire ces paroles d'évangile, enfin c'est en tout cas quelque chose qui a une valeur en soi et qui, mais tout ensemble, tout sur le même pied, c'est les fameux 613 mitzvot, les 613 commandements que, paraît-il, on découvre. Alors il y en a 460 qui sont positifs, il y en a le reste qui sont négatifs. Donc il y a... Ils ne sont pas d'accord sur la manière de compter, mais enfin, on arrive, paraît-il, à 613. Donc, tout est couché à plat. On a quand même l'impression que ce n'est pas tout à fait ça, la réalité. En fait, pour les Hébreux anciens, il y avait deux sortes de lois. Il y avait ce qu'on appelle les lois apodictiques, c'est-à-dire des lois majeures, en quelque sorte, qui s'impose absolument, comme le décalogue, et qui ne prévoit pas de châtiment, curieusement. Tandis que le reste, c'est une loi sociale qui tient compte des conditions de vie, des choses comme ça, et qui sont souvent assorties de peines si on s'en éloigne. Donc si c'était vrai, on serait... Alors c'est pas Benoît XVI dans son livre sur Jésus de Nazareth qui cite un certain Frank Kruseman, que j'ai mis là, qui s'avance dans cette zone, c'est-à-dire de faire en quelque sorte, dans le matériau législatif, une certaine distinction entre les métanormes, comme on dit, enfin les normes qui sont au-dessus, et puis le détail des choses qui organisent la vie et qui sont une réalité mouvante quand même, et certainement un peu évolutive, jusqu'à un certain moment où ça s'est fixé définitivement. Donc, le judaïsme qui a essayé de tout mettre à plat, probablement ne nous rend pas tout à fait service pour comprendre ça, pour retrouver, disons, ce dénivelé à l'intérieur des lois. Alors, pour autant, tout ceci n'est pas inutile. Alors, je vais vous rappeler ça à partir de quelques points. Pourquoi, finalement, cette loi complexe, riche, avec des tas d'aspects, est-elle importante ? Eh bien, parce qu'au fond, elle se veut une barrière contre l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que d'abord, elle enserre la vie humaine jusque dans ses aspects les plus profanes, marquant que tout est en relation avec Dieu. Qu'il n'y a pas que les grandes choses, les choix majeurs de la vie ou la prière, mais que toute notre vie, d'une certaine manière, est comme un culte rendu à Dieu. Par conséquent, l'existence de règles, c'est un peu dans la vie monastique, c'est un peu ce qu'a gardé le christianisme, hein, cette idée que, voilà, dès qu'on est élevé, tous les gestes sont un peu des gestes religieux, des gestes liturgiques. Donc, vous savez, quand un juif pieux, sa journée, c'est jalonné de bénédictions, quand il prend son pas, bien sûr, nous aussi on dit à bénicité, mais aussi quand il rencontre un ami dans la rue, ou quand il je sais pas quoi, et il fait des courses. Et donc toute la vie est enserrée par des commandements. D'autre part, il y a l'idée de la sainteté. La sainteté, c'est la mise à part, la distinction. Il va de pair avec cette expérience que tout n'est pas forcément sur le même pied. Que par exemple, il peut y avoir des temps où on fait des choses, des gens ne les font pas. La fameuse règle de pureté dans le couple, il y a des moments où on ne peut pas avoir de relation, parce qu'il y a une, on l'appelle une impureté, mais qui est pas, ça veut dire pas qu'on est maudit, ça veut dire simplement que ce n'est pas le moment, quoi. Et puis d'éliminer certaines nourritures, comme... le porc, par exemple. Et alors, la raison pour laquelle il y a des animaux impurs, j'ai fini par la comprendre. J'ai lu un ouvrage tout à fait passionnant sur le sujet qui explique qu'au fond, le principe, c'est des distinctions. Par exemple, il y a des animaux qui ont des sabots et des animaux qui n'en ont pas. Ça, c'est clair. Ben, le porc, il a des sabots, mais il n'a pas le pied fendu. Attendez,
il y a une fente.
Il y a une fente. Oui. Donc, c'est un inclassable, en quelque sorte. Et au fond, la pureté, ça veut dire de pouvoir mettre les choses dans des catégories claires. Et la dame qui écrivait ce livre faisait remarquer une chose assez juste, que pour un enfant, une chose qui n'est ni solide ni liquide lui paraît dégoûtante. Enfin, un caoutchouc, enfin,
c'est pareil que les anguilles, un poisson sans
écailles. Oui, c'est, peut-être, mais voyons. Alors, quelle que soit l'explication, en tout cas, il y a l'idée que tout n'est pas à notre disposition de la même façon. Qu'il y a des choses qui sont... Alors, cette fameuse histoire des deux batteries de cuisine, vous savez qu'actuellement, dans les restaurants en Israël, par exemple, il y a deux batteries de cuisine avec marqué rouge et bleu pour ne pas les confondre. Il y a, on met l'étage et l'autre la viande, puisqu'il y a ce fameux commandement, tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Si par hasard, le lait qu'on utilise était de la maman du chevreau qu'on va manger, pour éviter ça, donc on a deux batteries de cuisine. On pourrait dire ridicule, absurde, etc. Mais ça a quand même un sens, le sens de... on ne mélange pas tout, quoi. Alors que le paganisme est holiste, comme on dit, c'est-à-dire une espèce de bouillonnement de vie où tout jaillit, là, on classe. Hein, un peu comme nous avons appris à séparer les torchons des serviettes, quoi. C'est le principe de l'ordre, de la mise à distance de certaines choses, du fait d'organiser notre vie d'une manière qui ne soit pas cette espèce de confusion. De même, le refus de la consommation du sang se justifie parce que le sang, c'est la vie et que la vie est un don de Dieu. Nous n'avons pas pouvoir sur la vie. Hein, donc, nous, de manger du boudin, je sais pas quoi, de consommer du sang, ce serait consommer la vie et d'avoir un certain droit sur la vie, hein, qui est un don de Dieu. Bon, alors sur les questions de sexualité, on voit bien que ce qui est visé derrière l'ensemble, c'est finalement le refus de l'altérité. Le fait que masturbation ou homosexualité, c'est de ne pas accepter le jeu normal de la différence des sexes qui fonde la dignité de la personne humaine. Et au contraire, comme une manière de ne pas accepter de sortir du cocon familial... pour l'inceste. Ça revient à consommer sa propre chair. C'est assez beau, cette image, hein, qu'on trouve dans le Lévitique, hein, l'inceste, c'est consommer sa propre chair. Bon, enfin, je passe sur ma liste parce que vous vous rendez compte que je n'ai pu avoir que 10 minutes et je voudrais quand même dire quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire que je ne vais pas laisser beaucoup de temps à vos questions. Alors, il y a une solution, c'est que je m'arrête là et que je reprenne ça la fois prochaine. Et peut-être que ça serait aussi sage, hein, parce que je crains que... Hein, que je ne sais pas ce que vous préférez. Vous préférez qu'on prenne du temps pour les questions, puis qu'on prenne un peu de retard sur notre sujet. Parce que c'est comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'une heure, c'est court, quand même.
Donc peut-être que nous on reproposer à 20h15 pour la fin des cours la fois prochaine.
Ouais. D'accord, ben oui, mais là, là
même
oui,
mais
là,
pas aujourd'hui. On va pas aujourd'hui, mais... On finit.
Ouais. Bon, alors on finit. Aujourd'hui. On finit, d'accord. Bon, alors, le Christ, vous le savez, intervient dans, par rapport à la loi d'une manière qui n'est... Enfin, il prend acte de la loi, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, il se situe dans une expérience qui est dominée par la loi de Moïse. Hein. Et vous savez, le fameux texte de Matthieu 15, 16-17, hein, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Pas un trait, pas une lettre de l'écrit de la loi ne disparaîtra que tout soit accompli. » Alors évidemment, reste à comprendre ce qu'il veut dire quand il dit « accomplir ». Il y a au moins deux sens possibles. Ça peut vouloir dire qui va la porter à sa perfection, cette loi, qui va lui donner le complément qui lui manquait encore, le dernier achèvement, ou ça va vouloir dire qu'il va la réaliser dans sa personne d'une façon parfaite. On ne peut pas choisir entre ces deux sens, parce qu'ils sont vrais d'une certaine manière tous les deux. Donc, sur ce terrain, Jésus rencontre les pharisiens, qui sont aussi des champions de la loi, et qui, vous le savez, c'est même ça qui caractérise les pharisiens, pensaient qu'à côté de la loi écrite, la Torah écrite, il y avait une loi orale, qui était l'enseignement rabbinique qui était transmis de maître à disciple et qui a continué de l'être. C'est ce qui a fini par être mis dans le Talmud, si bien que la loi orale est devenue à son tour une loi écrite. Aujourd'hui, les Juifs se réfèrent au Talmud qui est l'ensemble des traditions sur la loi qui se sont d'abord mises dans la Mishnah, premier recueil qui est un peu constitué, puis ensuite il y a eu des additions de la Mishnah, et puis à la fin il y a eu le Talmud. Donc Jésus sait cela et il ne prend pas franchement par contre la loi orale. Il dit même, sur la chair de Moïse se sont inscrits les scribes et les pharisiens, faites donc et observez ce qu'ils vous disent. Donc, il ne répudie pas forcément la loi orale des pharisiens, mais il invite quand même à une distance critique, puisqu'il dit, dans un cas très clair, hein, quelquefois vous avez mis vos traditions à la place du commandement divin. C'est à propos du commandement, tu honoreras ton père et ta mère, et Jésus a remarqué que dans certaines sentences rabbiniques, on disait oui, mais si des enfants qui n'ont pas envie de dépenser leur argent pour leurs vieux parents veulent se mettre à l'abri, eh bien, il suffira qu'ils disent mais bien, je ne peux pas y toucher, je les ai donnés au temple de Jérusalem. Donc, c'est plus à moi. Bon, j'en ai juste l'usufruit, donc je ne peux pas le partager. Tant pis, papa, maman, trouvez d'autres sources, mais pas moi. Hein. Alors, Jésus dit vous avez votre tradition, rend caduque un commandement divin. Donc Jésus oppose la tradition des hommes avec le commandement divin. Donc c'est un jugement très sévère finalement sur la loi orale, du moins sur un aspect de la loi orale. Mais je crois plus profondément que ce que Jésus fait, qui est très important, c'est un recentrage. C'est-à-dire au lieu de mettre toutes les prescriptions sur le même plan, comme je vous disais tout à l'heure, le judaïsme tend à mettre tout, en quelque sorte, le moindre petit détail de la loi est aussi importante que tu ne tueras pas, eh bien Jésus va mettre un relief et une hiérarchie. Et la relief qu'il met n'est pas seulement à deux étages, mais à trois étages, c'est-à-dire d'abord il y a le grand commandement. C'est pour ça le fameux grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit et de toute ton intelligence, c'est Jésus qui a ajouté ça, et ton prochain comme toi. Donc, il y a un méga commandement, un méta-commandement. Mais ensuite, il y a les règles morales du décalogue, visiblement, hein, qu'il rappelle au jeune homme riche, par exemple. Et finalement, il y a toutes les règles de pureté, les différentes lois cérémonielles que Jésus ne répudie pas par principe. Il faut bien comprendre, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, Jésus n'est pas le fossoyeur de tout ça en disant tout ça, c'est un vieux truc, c'est dépassé. Mais il ne lui donne pas la même valeur absolue. Et il y voit surtout une pédagogie, l'obéissance. C'est pour ça qu'il peut dire il fallait pratiquer ceci sans négliger cela. Il dit ça à propos de la dîme. Hein, parce qu'un juif pieux verse la dîme sur tout, y compris les plus petites choses, même les herbes de Provence. Enfin, sur les... Donc il fallait... C'est pas mal, faites-le, c'est bien, c'est une habitude... tout à fait salutaire, mais il ne faut pas pour autant oublier les choses beaucoup plus importantes quand même que sont la justice, la loyauté, etc. Et alors s'inscrit Salis sur la question du sabbat. Vous savez, on dit toujours, voilà Jésus, à partir de Jésus, il n'y a plus de sabbat, il y a le dimanche, c'est autre chose. Ce n'est pas exact, Jésus a dû observer le sabbat très sérieusement, je pense qu'on soit, mais il y a eu des cas, notamment en présence d'un malade, où il a pensé qu'au fond, il appliquait bien mieux le sabbat en guérissant, c'est-à-dire en libérant le pouvoir du mal, parce que pour lui, il voit une guérison comme une victoire sur Satan, et bien que ça va beaucoup mieux dans le sens du sabbat, et que dans ce cas-là, et bien, il est maître du sabbat, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va déplacer en quelque sorte le point d'application du sabbat. Ce ne sera pas l'absence de travail qui va honorer Dieu, ce sera là une œuvre de libération qu'il va accomplir. Et donc dans les sept cas où Jésus fait une guérison un jour de sabbat, vous remarquerez, c'est juste toujours à cause d'une urgence. C'est cette femme qui était liée par Satan depuis je ne sais pas combien de temps, et je suis là aujourd'hui et je ne la guérirai pas, mais ça ne va pas la tête, enfin... C'est pas une dépréciation du sabbat, mais c'est une remise en place du sabbat. Alors ce recentrage, moi, c'est une des choses que je voulais vous mettre en valeur, et d'autre part, le fait que Jésus interprète la loi comme une prophétie. Alors là, je voudrais revenir une seconde, parce que pour le judaïsme actuel, enfin le judaïsme rabbinique, en gros, la Bible, ce que nous appelons la Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament, ils appellent ça Tanakh, c'est-à-dire il y a au centre la Torah, les cinq livres de Moïse, ensuite il y a les prophètes, lesquels ils mettent un peu plus que ce que nous mettent certains livres historiques, enfin peu importe, il y a les prophètes, et puis autour il y a ce qu'ils appellent les écrits, par exemple les psaumes, les sagesses de Salomon, les proverbes, enfin des choses comme ça. Donc ils disent, la révélation majeure c'est la Torah. Les prophètes c'est une illustration de la loi, et les écrits, c'est une illustration de l'illustration. Donc, en quelque sorte, la révélation parfaite et complète, c'est la Torah. On dirait que Jésus déplace la chose en disant « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes », c'est-à-dire accomplir, je suis venu pousser jusqu'à sa réalisation définitive, cette loi, c'est-à-dire en fait, c'est au sens où il va accomplir les prophéties, c'est-à-dire réaliser ce qui était annoncé. Donc on a l'impression, enfin c'est plus qu'une impression, on a la certitude que pour Jésus, au fond, il va interpréter sa passion comme la réalisation de l'essence de la loi. Au fond, toute cette loi, elle était pour quoi faire ? Pour dire que l'homme était fait pour Dieu et qu'il était fait pour rendre un culte à Dieu, que c'est ça la grandeur de l'homme. Et comme l'homme a manqué à son service de Dieu, a manqué à son offrande à Dieu, eh bien le Christ est venu sur terre, il a non seulement fait du bien, il a guéri, mais il a offert sa vie pour être le sacrifice, enfin le sacrifice parfait que le culte du temple n'a réalisé que très imparfaitement, de façon figurative et pas réelle, tandis que lui va le porter jusqu'à son dernier accomplissement. Donc, en quelque sorte, au lieu de légiférer la loi, Et là, les prophètes, je veux dire, ils prophétisent à partir de la loi. Et il fait de la loi une annonce de ce qui va se réaliser dans le grand acte qu'il est venu accomplir, qui est son offrande pascale, où il va accomplir. Et en ce sens, toute la loi était une annonce de ce qui se joue dans l'acte dramatique qui commence avec le procès devant Caïphe et qui va jusqu'au matin de Pâques. Donc l'accomplissement que lui vient apporter, c'est ce passage à la limite, ce moment où il porte tous les sacrifices de l'ancienne loi à leur vrai signe. Il est à la fois le prêtre, l'offrande et l'autel. Donc, je crois que ce premier point, cette manière dont Jésus se situe vis-à-vis de la loi, à la fois pour la recentrer et pour en accomplir le dépassement, aboutit alors à l'égard de ses disciples et à l'égard de ceux qui le suivent à une exigence extrêmement forte de conversion. Vous avez ce mot qui traduit le grec métanoïa, c'est-à-dire changement de mentalité. On traduisait jadis plutôt par pénitence ou repentir, mais c'est la même chose. C'est un refrain de l'évangile, déjà d'ailleurs dans la prédication de Jean-Baptiste, mais particulièrement de celle de Jésus, c'est-à-dire ce retournement radical qui aboutit à suivre Jésus, à marcher derrière lui, à porter sa croix et à entrer dans la voie nouvelle qui nous trace. Finalement, la morale que Jésus propose à ses disciples, qui est bien sûr la loi, mais qui est bien plus que la loi, c'est finalement d'entrer dans un compagnonnage avec lui qui implique de marcher à sa suite et de se retrouver avec les autres disciples dans une communauté qui est l'Église. Que fondamentalement, la morale du Nouveau Testament est une morale de la conversion par laquelle le disciple est appelé à entrer dans cette suite du Christ et accepter le renoncement parfois héroïque demandé qui va avec. Alors, c'est ce qui fait l'importance des béatitudes, auxquelles je vais consacrer quelques minutes encore, si vous permettez. Alors, on met souvent les béatitudes en contrepartie de la loi de l'Ancien Testament, en disant, ben voilà, il y avait le mont Sinaï, Jésus prêche la loi nouvelle sur le mont des béatitudes, au-dessus du lac de Tibériade. Dans un cas, c'est une montagne très élevée, sévère, avec des effets d'éclair. Dans l'autre, c'est dans la douceur, dans le paysage très doux du lac de Tibériade, etc. Bon, c'est pas faux, hein, mais malgré tout, les béatitudes ne se présentent pas vraiment comme un texte législatif. D'abord, il n'y a pas 10 commandements, il n'y a que 8 béatitudes. Ou 9, ça dépend comment on compte, mais en tout cas il n'y en a pas 10, et puis surtout, elle se présente plutôt comme un texte de sagesse, à vrai dire. La formule « heureux, bienheureux » est connue dans l'Ancien Testament, on la trouve, mais justement on ne la trouve jamais dans les lois, on la trouve dans les écrits de sagesse, comme le premier psaume, le psaume 1, « heureux, qui marche dans la loi du Seigneur », etc. Donc, cette manière de présenter la conduite juste comme quelque chose qui rend heureux. Pas du tout la ligne de la loi, ça. C'est une autre approche de l'action. Donc Jésus se place beaucoup plus dans cette perspective, hein, et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit dans les béatitudes ? Alors, vous savez qu'il faut distinguer celles selon Matthieu et celles selon Saint-Luc, qui sont quand même très différentes, ne fût-ce que parce que dans Saint-Luc, il n'y en a que 4 et qui sont suivies chacune de malédictions. Hein. Malheureux vous les riches, malheureux vous qui riez maintenant, malheureux vous qui êtes repus, etc. Donc c'est quand même très différent. Et au fond, chacune des deux insiste sur un aspect essentiel et complémentaire. Je commence par Saint-Luc. Saint-Luc se situe dans l'optique d'un un événement imminent. Alors, vous qui êtes pauvres, parce que de toute façon, tout va être bousculé, et donc, si vous, ceux qui ont de l'argent, ben, ils n'en auront pas longtemps. Si vous avez suivi le Messie, ben, vous récolterez 1000 fois plus que ce que vous avez quitté. Donc, c'est la perspective d'un événement eschatologique, comme on dit, enfin, d'un événement proche qui va modifier complètement la donne. Donc ça, c'est la perspective de Saint-Luc, qui est bien la perspective de Jésus, parce qu'il dit la même chose dans beaucoup d'autres textes, qui est celle d'enseigner finalement une morale provisoire, qui est celle de gens qui savent qu'on est dans un temps précaire, dans un temps qui ne va pas durer, et dans lequel il faut faire vite un choix pour l'essentiel. C'est comme si au soir on nous disait, ben voilà, rentrez chez vous, prenez ce qu'il vous faut, mais demain il faudra que vous soyez partis sur la route, alors vous chercherez les choses les plus importantes, ce qui ferait un sac, un petit baluchon, puis on partirait. Et c'est un peu ça la morale évangélique par certains côtés, c'est de dire, vous n'aurez pas l'avenir devant vous, le monde ne va pas continuer tranquillement comme il est, d'une façon ou d'une autre, il y aura un bouleversement, et il faut que vous soyez prêts. Vous soyez pas arrivé sur vos possessions et sur vos avantages. Ça, c'est beaucoup plus le côté lucanien. Le côté de Matthieu est plus sur la durée. Il s'agit de valoriser des attitudes intérieures. La pauvreté devient la pauvreté par l'esprit, par le cœur. C'est-à-dire, c'est un détachement intérieur qui va être une valeur, enfin une manière d'être humble, d'être petit, de ne pas avoir l'arrogance de l'argent, de pouvoir accepter de faire une place dans son cœur aux autres. Donc c'est beaucoup plus une attitude morale en quelque sorte. C'est pas seulement dans une urgence qu'on met quelque chose par rapport à une vie que Jésus veut belle, heureuse et féconde. Et qui est celle de ceux qui le suivent et qui ont compris un certain nombre de choses. Alors, donc c'est cette visée, disons, plus sapientielle, enfin plus tournée vers l'acquisition de valeurs intérieures dans Matthieu et plus tournée vers la précarité de la condition présente dans Luc, sont complémentaires, évidemment, ça ne se contredit pas, ça va bien dans le même sens, mais... Finalement, c'est deux angles de la morale évangélique qui sont importantes l'une et l'autre et qu'on ne peut pas supprimer. Le versant eschatologique est quand même extrêmement présent. Vous savez, souvent, on ne fait pas beaucoup attention, mais toute la place qu'occupe dans l'enseignement de Jésus, le rôle de l'imminence de l'homme. Alors on dit toujours, oui, mais alors Jésus croyait que la fin du monde était pour demain, et il a fait 2000 ans que ça continue, et c'est pas arrivé, etc. Alors, docteur Schweitzer, vous avez entendu parler, docteur Schweitzer, oui. Vous savez, celui, les minuit, docteur Schweitzer, vous avez pas lu ce livre, c'était un homme qui a fait beaucoup de bien au Gabon, je crois.
Au Gabon,
il avait un dispensaire, c'était en plus un mélomane remarquable, il jouait magnifiquement du violon, et en plus il a étudié la Bible, mais malheureusement, alors il a été très sensible à ce côté eschatologique de l'enseignement moral du Christ, mais il en a tiré la mauvaise conclusion, c'est-à-dire qu'au fond Jésus avait tout bâti sur l'hypothèse d'une fin imminente et qui ne s'est pas réalisée. Alors c'est un autre sujet, je ne vais pas le traiter ici, mais enfin on voit que pour Jésus la vie chrétienne c'est une succession en fait de passages au crible, hein, et par lesquels le disciple passe, qui n'est pas seulement... Il y aura bien sûr une fin du monde qui sera la totalisation de tout ça, mais il y aura tout au long de notre vie chrétienne et de la vie de l'Église un certain nombre de nœuds qui seront un moment de passage décisif par lesquels nous, ça sera à l'échelle de notre vie, ça sera notre mort, par exemple, dans lesquels tout sera remis en cause, en quelque sorte, et tout ce que nous avons bâti sera mis par terre, et ne restera que ce qui a été édifié sur l'amour de Dieu et du prochain. Bon, donc, je vais conclure en vous montrant, d'abord, je crois que c'est évident, l'extraordinaire richesse de tout ça. Enfin, vous vous rendez compte, j'ai effleuré à toute vitesse, autant que j'ai pu, cette richesse aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, vous voyez qu'en fait, nous ne sommes pas simplement face à quelques vagues conseils de morale sur « faut bien se tenir, il faut essayer d'être gentil avec son petit camarade ». Il y a quelque chose d'infiniment plus vaste et qui vient d'un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui, non seulement nous a révélé son plan sur nous, Ancien Testament, mais en plus qui nous a envoyé son Fils pour nous le redire d'une autre façon, puis surtout pour nous permettre d'en profiter, c'est-à-dire en envoyant l'Esprit Saint qui va venir intérioriser la loi, faire qu'elle n'est pas seulement une loi écrite sur la pierre, mais une loi écrite dans les cœurs qui va nous permettre de le suivre et de marcher derrière lui.
Voilà. Est-ce qu'il y a, en